autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, sous le soleil, exactement, c'est la veille de l'été, pour nous demander comment fonctionne le soleil, notre étoile qui nous a façonné, éclairé, réchauffé, comment l'activité de cette énorme boule de gaz qui brûle depuis 4,5 milliards d'années influence-t-elle non seulement la vie, toute forme de vie sur Terre, mais aussi toute la météorologie de l'espace? Quels sont les mécanismes à l'œuvre au cœur du soleil? Quelle est l'origine et l'impact du magnétisme solaire et de son inversion? Quels sont ces cycles? Faut-il craindre ces éruptions? Le soleil va-t-il disparaître? Autant de questions brûlantes que nous allons soulever avec notre invité, l'astrophysicien Alain Sacha Brun du CEA, qui a entre autres percé le mystère de l'inversion du cycle magnétique du soleil. Autour de la question comment fonctionne le soleil et pourquoi tourner autour? Bienvenue.
Je trouve qu'il faut absolument parler du soleil parce que l'énergie que nous envoie le soleil, c'est l'énergie absolue. On en utilise extrêmement peu et tout vient du soleil. On va chercher l'énergie fossile alors que le soleil est là pour nous fournir tout ce dont on a besoin. Et avec le phénomène de la photosynthèse, c'est la vie même complète et nécessaire et suffisante. Donc je trouve que c'est génial de faire une émission sur le soleil.
Voilà qui est dit par le réalisateur Pierre-Oscar Lévy. Bonjour Alain Sacha Brun.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour partager vos recherches et vos découvertes sur le fonctionnement du Soleil, notre étoile auquel vous consacrez vos recherches. Vous êtes astrophysicien, chef du laboratoire de dynamique des étoiles, des exoplanètes et de leur environnement au CEA, à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes, Sacha, l'un des plus éminents spécialistes de la structure interne du Soleil. C'est d'ailleurs le sujet de votre thèse. Vous avez depuis mis en évidence la périodicité des cycles magnétiques du Soleil. Tous les 11 ans, on va y venir. Parce que ce que vous étudiez, c'est la dynamique du Soleil. On pourrait dire qu'il se passe toujours quelque chose, au fond, dans cette boule de gaz, dans notre étoile.
Oui, tout à fait. Il se passe toujours quelque chose dans le Soleil. Bon, je ne veux pas dire que je suis celui qui a la découverte du cycle d'origine du Soleil. Ça serait bien trop prétentieux de ma part. Non, nous, on explique d'un point de vue des mécanismes physiques pourquoi il y a le cycle de 11 ans dans le Soleil. Un cycle de 11 ans qui n'est pas tout à fait de 11 ans et c'est pour ça que c'est difficile. Et on y reviendra
parce que c'est ça qui impacte notre Terre.
C'est ça qui impacte notre Terre. Mais du coup, la connaissance que le Soleil avait un cycle remonte bien plus lointain par des chercheurs du 18e siècle et de ces périodes-là, 18e, 19e siècle. Donc après, l'origine magnétique des taches à la surface du Soleil, ça c'est plus récent, c'est plutôt début du 20e siècle. Par contre, effectivement, les premières détections des taches solaires par une méthode scientifique, c'est Galilée, donc c'est plutôt le début du 17e siècle, et des évidences qu'il y avait des choses qui se passaient sur la surface du Soleil, ça remonte même aux Chinois, même avant. Et ça, mais il y avait un côté, vous savez, les astronomes étaient toujours près des grands empereurs, un peu comme ceux qui pouvaient aider l'empereur à avoir un avantage sur son concurrent d'à côté. Et donc, du coup, les astronomes ont toujours un peu cette connaissance du ciel et parfois qui a été un peu fait de façon un peu trop mystique. Moi, ici, je viens en tant que scientifique qui essaie de comprendre le Soleil et ses mécanismes internes. Et donc, oui, effectivement, nous, avec mes jeunes collègues, et depuis aussi bien en France qu'à l'étranger, aux États-Unis et au Canada, nous avons pu mettre en évidence quels sont les mécanismes fondamentaux de fonctionnement du cycle solaire et surtout comment ceci se modifie quand on change l'étoile.
Quand on change l'étoile, parce que le Soleil, c'est une étoile, voilà, on est bien
soleil,
d'accord, c'est notre étoile et c'est une étoile.
Voilà. On est juste tellement proche d'elle qu'on la voit beaucoup, avec beaucoup plus de détails. Et c'est justement ça qui est très intéressant, c'est de se servir du Soleil comme pierre de rosette pour pouvoir le mettre en contexte et comprendre le magnétisme des autres étoiles.
Parce que des étoiles comme le Soleil, il y en a d'autres ailleurs dans la galaxie.
Oui, il y a dans notre galaxie à peu près 100 milliards d'étoiles. Sur ces 100 milliards d'étoiles, il y en a à peu près 4-5 milliards de type solaire, c'est-à-dire à peu près proche de la masse du Soleil. Et de type exactement comme le Soleil, on pense à peu près 1 milliard. Mais proche de nous, qu'on a observé, qu'on connaît bien, j'aime bien citer le nom de 18 Sco, parce que 18 Sco est le jumeau solaire, l'étoile qui est la plus semblable à notre Soleil.
18 Sco, il est où ce Soleil-là?
Dans le Scorpion, je pense. Hein, et là-dedans, on a une étoile qui est très proche en termes de masse, de rotation, et donc d'évolution et de composition chimique aussi. Parce que récemment, avec des collègues de différents pays, nous avons montré que des soleils plus métalliques, qui seraient plus riches en métaux que notre soleil actuel, auraient un niveau d'activité supérieur.
Parce que notre soleil, c'est une boule de gaz, on peut le définir comme ça, qui brûle depuis
4,5 milliards d'années. Et grâce aux réactions de fusion, parce qu'en fait, c'est une grosse boule de gaz d'hydrogène. Et au sein du Soleil, à l'intérieur, il y a une très forte stratification, c'est-à-dire que l'intérieur du Soleil est beaucoup plus dense que ses couches externes. Et au centre du Soleil, la densité et la température sont telles que cet hydrogène se transforme en hélium. Donc, il devient plus complexe et se complexifie. Mais la composition chimique du Soleil, comme le Soleil n'est pas une étoile de première génération, c'est-à-dire que ce n'est pas une étoile de population 3, c'est une étoile qui a été, quand elle a été formée, il y avait déjà des éléments comme l'or, le plomb qui avaient été créés par des générations précédentes d'étoiles, qui avaient enrichi notre galaxie de ces éléments chimiques beaucoup plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Du coup, le Soleil est une étoile qui a une certaine, comme on dit chez les astrophysiciens, certaine métallicité. Alors, c'est la métallicité de référence par rapport à toutes les étoiles. Donc, on va parler d'étoiles sous-métalliques et d'étoiles sur-métalliques par rapport au Soleil. Et donc, on a des étoiles qui sont plus récentes et qui se sont enrichies en métaux un peu plus que la nôtre. Et donc, on commence à avoir non seulement des jumeaux solaires qui ont la même composition chimique, mais aussi des étoiles qui ont la même masse que le Soleil, le même taux de rotation, mais qui sont plus métalliques ou moins métalliques. Et on commence à se rendre compte que ça a un impact sur leur activité et potentiellement sur la durée de leur cycle.
Et donc potentiellement sur les planètes qui gravitent autour.
Exactement.
Et on peut dire que si la vie est apparue sur Terre et si elle se maintient, c'est bien grâce au Soleil, à notre étoile.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la notion de zone habitable. Autour de chaque étoile, il y a ce qu'on appelle une zone habitable. Alors, comment a été définie cette zone d'habitabilité? Vous allez me dire, est-ce qu'il faut avoir des petits hommes verts dessus? Non, bien évidemment, les astrophysiciens sont plus sérieux que ça. Et donc, le principe qu'ils ont considéré, c'est avoir de l'eau liquide à la surface. Donc ça, grâce à des modèles de climatologie, de planètes ou d'exoplanètes, et avec des principes physiques de base, on est capable de délimiter le bord intérieur de la zone habitable, qui dans le cas de notre système solaire est aux alentours de Vénus, et le bord extérieur de la zone habitable, qui dans le cas de notre système solaire est au niveau de Mars. La Terre a le bon goût d'être au milieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette zone interne et externe change en fonction de l'étoile auquel le cortège de planètes orbite autour.
Donc change en fonction du Soleil,
en fonction de l'étoile centrale, voilà.
Qui en l'occurrence est le Soleil. Autour de la question comment fonctionne notre Soleil et pourquoi il est absolument indispensable de le comprendre avec vous, Sacha, je vous propose un nouvel éclairage, c'est celui d'un de vos collègues de l'ESA, l'astrophysicien Sébastien Charnoz, qui était récemment notre invité et qui est spécialiste, lui, des exoplanètes.
Tout le monde se dit, oh bah tiens, les étoiles c'est la vie, sans soleil pas de vie, ce qui est parfaitement normal parce qu'en fait tout simplement l'étoile c'est la source d'énergie. Mais c'est aussi une étoile, ça tue aussi parce que c'est très exactement à cause du soleil que par exemple la surface de Mars est une surface qui est très inhospitalière à la vie à cause des radiations du soleil. On a beaucoup de mal à aller sur les satellites de Jupiter parce que aussi les radiations du soleil sont très intenses. Tout simplement en fait, l'étoile est une source d'énergie, mais par son vent solaire et par les radiations qu'elle émet, eh bien, tout simplement, elle détruit aussi la vie qu'elle est censée créer par ailleurs. Donc, en fait, pour pouvoir avoir quelque chose d'habitable, en fait, il nous faut une combinaison subtile entre l'étoile qui va être une source d'énergie pour la planète, mais il faut que la planète puisse se protéger des rayonnements les plus durs et les plus destructeurs de cette étoile. Et ça implique deux choses. Premièrement, c'est d'avoir une atmosphère pour nous protéger, en particulier des rayonnements UV. S'il n'y avait pas d'atmosphère sur Terre, votre peau grille mais directement à cause du rayonnement ultraviolet. Le rayonnement ultraviolet est utilisé dans les hôpitaux pour stériliser les instruments de chirurgie. Donc c'est bien stérilisation, c'est-à-dire qu'on détruit toute forme de vie. Voilà. Et deuxièmement, il faut que la planète ait ce qu'on appelle un champ magnétique, c'est-à-dire un champ qui va protéger la planète des particules chargées émises par l'étoile. Et ce champ magnétique, il est très puissant autour de la Terre, c'est ce qui fait qu'on est protégé du vent solaire. Mais regardez sur Mars, il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Donc Mars est frappé par le vent solaire très efficacement, au même point où le vent solaire, on pense, a soufflé une bonne partie de l'atmosphère de Mars. Toutes les planètes n'ont pas de champ magnétique. Donc en fait, il y a une relation très subtile entre la planète et... Il ne suffit pas d'avoir n'importe quelle planète autour d'une étoile pour que la vie puisse apparaître sur sa planète. Il faut que l'étoile va apporter son énergie, mais il faut aussi que la planète ait toutes les bonnes propriétés pour se protéger et du vent stellaire et de son rayonnement pour pouvoir justement préserver sa vie. Et ça, c'est subtil.
Vous voulez compléter, Sacha Brun, les propos de Sébastien Charnot sur ce soleil à la fois protecteur et destructeur?
Oui, alors tout à fait. Ce que dit Sébastien est exact. Le soleil a ce côté un peu ambivalent qui permet en même temps de nous donner la source d'énergie. Donc, comme on disait que la situation dépendait de l'étoile qu'on a au centre, forcément, dans le cas du soleil, la situation est qu'effectivement... ce vent stellaire dont parle Sébastien, c'est-à-dire que c'est en fait la couronne, l'atmosphère étendue du Soleil, et qui est très chaude, parce que le Soleil a une structure assez complexe. Il est très chaud à l'intérieur, à une température très élevée à l'intérieur, vers 15 millions de degrés.
15 millions de degrés à l'intérieur. C'est quoi? C'est une centrale,
Alors, non, parce que c'est compliqué, mais le réacteur ITER qu'on est en train de construire de fusion à Cadarache, qui est un projet international pour essayer de maîtriser cette fusion, c'est-à-dire prendre des petits atomes et en faire des plus gros, et en fait, a besoin d'une température même supérieure à celle qu'il y a dans le centre du Soleil, parce qu'on n'est pas capable d'avoir un plasma aussi dense qu'au centre du Soleil. Et donc, du coup, on est obligé de compenser cette incapacité qu'on a à créer des plasmas très denses, comme au centre du Soleil, en augmentant la température pour que les réactions nucléaires soient suffisamment fréquentes pour que ça fonctionne comme une centrale.
Donc le centre du Soleil est particulier, enfin...
Mais non, c'est-à-dire c'est-à-dire que l'énergie du Soleil, c'est la gravité. Le fait qu'il y ait cette masse énorme de matière comprimée et condensée fait qu'au centre, la température et la densité sont suffisantes pour que les réactions de fusion commencent. Et donc, là-dessus, c'est la conversion, en fait, de cette énergie de gravité en énergie de fusion et après transportée par rayonnement et par mouvement de matière à l'intérieur du Soleil qui crée le magnétisme du Soleil et qui crée ce vent permanent, parce que comme je disais, la température, elle a le bon goût de descendre jusqu'à 6000 degrés à la surface du Soleil, mais après, dans son atmosphère étendue, celle qu'on voit quand on regarde une éclipse totale du Soleil, où on voit cette chevelure qu'on appelle la couronne, la couronne solaire, elle est en moyenne à 1 ou 2 millions de degrés. Donc la température remonte. Et cette couronne, en fait, se prolonge sous la forme d'un vent de particules qui, en permanence, impacte les planètes du système solaire.
Et donc, la seule manière d'y échapper, c'est quoi? C'est sorte de bouclier magnétique?
Alors, ce bouclier magnétique, il nous protège des particules chargées, mais pas des particules neutres. Donc, il y en a quand même qui arrivent à venir nous partager. Mais disons que tout ce qui est proton, dès que c'est chargé, dès que les particules sont ionisées, elles sont déviées par ce bouclier magnétique. Et parfois... Ça arrive plus souvent quand on est en haut du cycle de 11 ans, sur lequel on reviendra, qu'en faible, en période de minimum, comme on est en train en ce moment d'arriver actuellement, en 2018, on a du coup des tempêtes. Et ces tempêtes dans le vent...
Tempêtes solaires.
Des tempêtes solaires à l'intérieur du vent. Donc quand vous voyez bien, c'est vraiment comme on peut s'imaginer notre expérience. Hein. On a effectivement un vent en permanence et à l'intérieur des tempêtes. Et ces tempêtes, qu'on appelle des éjections de masse coronale, peuvent avoir un impact encore plus grave et plus fort sur le bouclier magnétique de la Terre ou sur les conditions de développement de la vie que le vent lui-même. Ce qu'on se rend compte, quand on met le soleil en contexte et qu'on prend, on regarde comment était le soleil jeune, eh ben on se rend compte que les étoiles, quand elles sont plus jeunes, elles tournent plus vite, elles sont plus magnétiques et elles sont plus actives. Donc les conditions de vie autour d'un soleil jeune sont beaucoup plus dangereuses que autour d'un soleil vieux.
le nôtre et il est au milieu de
son
âge.
Il est au milieu de sa vie, donc il commence à être un peu moins actif que d'autres étoiles, mais il l'a encore beaucoup.
Alors je veux bien qu'on revienne, Sacha Brun, sur ces cycles solaires, vous avez dit à peu près 11 ans, et tous les 11 ans, il y a quoi ? Il y a une inversion du magnétisme solaire ?
Oui, alors ce que j'aime bien dire à la radio, parce que dès qu'on commence à parler renversement, les gens s'imaginent que le soleil bascule sur lui-même complètement. Non, il faudrait une énergie phénoménale, pratiquement une collision avec une autre étoile, ce qui n'arrive quasiment jamais dans l'univers, mais très peu de collisions d'étoiles. Après, il y a des fusions d'étoiles, ça, c'est, comme vous avez entendu parler des gamma ray bursts, des choses comme ça. Mais quand deux galaxies, donc deux cortèges de milliards d'étoiles se rencontrent, elles se distordent l'une et l'autre, sans qu'il y ait de rencontre une à une d'étoiles les unes contre les autres. Donc cette étoile, elle a donc une source d'énergie qui est à l'origine de ce magnétisme. Et ce magnétisme, on se rend compte qu'il est cyclique. Alors, on peut s'en rendre compte et le comprendre très facilement en faisant une analogie avec ce qu'on a comme courant électrique domestique. On sait qu'il y a des courants continus. Et on sait qu'il y a des courants alternatifs. Nos prises électriques, en tout cas en France, elles sont 220 volts, 60 Hz. Donc elles ont un courant électrique qui est modulé. Mais dans le Soleil, il y a des grands courants électriques, parce que comme le Soleil est un gaz chauffé, il est donc ionisé, il y a donc la possibilité d'avoir des courants qui se propagent à l'intérieur, et ces courants ont le bon goût de se renverser, eux, donc parfois ils vont de gauche à droite, parfois ils vont de droite à gauche, on va dire pour faire simple. Et donc, comme les courants électriques induisent un champ magnétique, le changement de sens des courants électriques à l'intérieur du Soleil induisent un renversement de la structure magnétique du Soleil.
Et ça se produit, c'est ce que vous avez pu calculer, environ tous les 11 ans.
Environ tous les 11 ans, et on a même dans nos articles, dans nos travaux, montré que si l'étoile était tournée deux fois plus vite, ou si l'étoile était 10% plus massive, comment ça allait modifier la période du cycle.
Et est-ce que ça a un impact sur nous, sur Terre, cette inversion du magnétisme solaire, tous les 11 ans à peu près ?
La réponse simple et triviale, c'est que s'il y en avait, on le saurait parce que...
On le saurait tous les 11 ans, hein, oui, c'est ça.
On le saurait depuis longtemps. Et en fait, ce qui est intéressant, puisque Sébastien parlait de la lumière ultraviolette, c'est assez intéressant de se rendre compte que le soleil ultraviolet, si nos yeux, si on était des êtres différents, qui ne voyons pas dans le domaine du visible, mais qui voyons dans le domaine de l'ultraviolet ou des rayons X, on se serait rendu compte bien avant le 16e siècle, ou même que le soleil avait un cycle.
Ah, on verrait. Il y a donc peut-être des animaux sur Terre qui voient le changement de cycle solaire.
Ben, en tout cas, en ultraviolet, la variation est bien plus forte qu'en lumière visible. En lumière visible, c'est 0,1% sur les 11 ans, la variation. Donc, on ne s'en rend pas compte. Mais en ultraviolet, c'est un facteur 2. En rayon X, ça peut être un facteur 10. Et donc, si on avait été des petits êtres qui voyaient en rayon X, tout petits, qui avaient des yeux tout petits, qui voyaient dans le rayon X, eh ben, on se serait rendu compte depuis très longtemps que le Soleil avait un cycle. Parce que ça varie énormément. Voilà.
Je propose de continuer à tourner autour du soleil, Alain de Sacha Brun, pas avec nos yeux cette fois-ci, mais avec nos oreilles en musique, parmi les innombrables chansons que nous ont inspirées notre étoile. Apolline Vallon-Raison a fait son choix et son mix sous le soleil, évidemment.
Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons.
Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant.
Un soleil d'hiver m'a levé.
Oh, même en plein soleil, on est toujours loin du soleil. Oh, même en plein soleil,
je me dis que le soleil fera le reste.
Eh oh,
du soleil.
Parce que l'on dit du lent soleil de minuit.
Du soleil, comme une symphonie, quel que soit le ciel de ton pays.
Du soleil, mix très ensoleillé autour de la question du soleil sur RFI avec notre invité, l'astrophysicien Alan Sacha Brun. Vous êtes né vous-même sous le soleil méditerranéen. Est-ce que ça a influencé justement votre choix d'étudier le soleil?
Ah oui, fortement, oui, bien évidemment. Non, je suis né à Marseille, j'ai grandi dans le golfe de Saint-Tropez et j'ai donc bénéficié d'un climat, on va dire, plus que favorable. Et oui, le soleil, c'était souvent, faisait partie des choses qu'on aimait bien faire. Le matin, voir le soleil se lever. Et donc, effectivement, le soleil a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Et quand j'ai eu la possibilité de choisir des sujets de thèse à l'école doctorale d'astrophysique de Paris, j'avais la possibilité de faire soit de la cosmologie, soit la physique solaire. Et il s'avère que la physique solaire, il y avait le satellite SOHO qui allait être envoyé quelques mois à peine au début de ma thèse. On commence généralement les thèses à l'école doctorale d'astrophysique de Paris vers octobre, et le satellite est envoyé en décembre. Donc accompagner le lancement de satellites aussi importants que le satellite SOHO, qui a été le premier observatoire avec 13 instruments à observer le soleil en continu au point de Lagrange L1, c'est-à-dire à peu près 1,5 million de kilomètres de la Terre, mais dans la ligne directe Terre-Soleil, à un point particulier dans le système solaire au niveau des forces de gravité entre la Terre et le Soleil, c'était un moment unique. Et on a la chance, SOHO est là depuis 22 ans, il avait été construit pour 5 ans. Et donc, on a la chance d'avoir un satellite qui a fait du multi-instrument et de l'observation sur toutes les coutures du Soleil pendant deux cycles de tâches et un cycle complet magnétique. Parce que l'axe magnétique dont on parlait, il se renverse tous les 11 ans. Mais donc, s'il était axe nord, eh ben, il passe axe sud. Et après, il doit revenir à l'axe nord. Et donc, un cycle complet du Soleil, c'est 22 ans. Et le satellite a à peu près cette période-là. Donc, c'est fantastique.
Et ça change, ça a tout changé, j'imagine, pour les astrophysiciens, d'avoir de tels outils, d'avoir des satellites qui puissent... Peut-être pas se rapprocher autant, mais observer, on va dire, d'aussi près ou d'aussi loin de la Terre, le Soleil.
Ce qui a surtout permis de la spatialisation, c'est donc d'aller voir justement ces fameuses longueurs d'onde qui sont bloquées par l'atmosphère, dont on parlait tout à l'heure, l'ultraviolet, on sait très bien qu'il est bloqué, le rayon X aussi.
D'aller au-delà, finalement.
Et en allant au-delà de l'atmosphère, de la Terre, en mettant donc un satellite en orbite à l'extérieur de l'atmosphère, on pouvait donc voir les fenêtres électromagnétiques, comme on appelle, s'ouvrent. Alors que l'atmosphère de la Terre en filtre énormément, heureusement pour nous, comme on le disait plus tôt. Et donc, on a pu donc regarder le Soleil dans des longueurs d'onde auxquelles il était très difficile d'avoir accès depuis le sol. Mais le suivi au sol est aussi très important parce que la taille des télescopes qu'on peut avoir sur le sol n'est pas la même que la taille des télescopes qu'on peut envoyer dans l'espace, pour une raison évidente de poids. Et donc
il faut les deux. Il faut à la fois l'observer depuis la Terre avec des très grands télescopes.
Et depuis l'espace, pour accéder à des longueurs d'onde qu'on n'a pas, et pour avoir une continuité de l'observation, parce que dans l'espace, il n'y a pas l'effet jour-nuit. Alors que sur Terre, vous êtes obligé, si vous voulez regarder le Soleil 24 heures sur 24, d'avoir un réseau de télescopes qui sont bien répartis en niveau des méridiens. Donc, un sur l'Europe, un sur les États-Unis.
Alors qu'au-delà...
Au-delà, on n'a pas ce problème quand on est au point de Lagrange. On n'a pas ce problème d'effet jour-nuit ou de passage dans l'ombre de la Terre, qui peut arriver aussi. Et donc, on peut l'avoir en permanence. Et c'est ça qui est fantastique dans les données du satellite SOHO et des satellites qui arrivent depuis, c'est qu'on a une continuité des jeux de données.
D'observation de ces longueurs d'onde. J'ai envie de dire de pouvoir écouter ces longueurs d'onde parce que le soleil, il ne chante pas. Hein. Ces ondes sont invisibles, inaudibles pour nos oreilles. Mais les variations qu'il émet peuvent être transposées et retranscrites en musique. L'astrophysicienne Sylvie Vauclair, que vous connaissez bien, je crois qu'elle a supervisé votre thèse.
Alors, pas supervisée, mais elle était rapportrice.
Alors, rapportrice de votre thèse, Sylvie Vauclair a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Claude Samuel Lévin sur ce qu'ils appellent la chanson du soleil. Écoutez l'éclairage, c'est le cas de le dire, de Sylvie Vauclair sur la chanson du soleil, la petite musique du soleil retranscrite par Claude Samuel Lévin.
Le soleil se comporte comme une grosse caisse de résonance, comme un instrument de musique en fait. Vous savez qu'un instrument de musique, bon, par exemple, la guitare ou le violon, c'est constitué, je dirais, de trois parties. D'abord, ce qui provoque la vibration, ce qui provoque la note, qui est la corde dans ce cas-là. Ce qui aide à mettre la corde en vibration, donc qui est l'archet ou bien la main de la personne qui joue de la guitare. Et puis, la caisse de résonance. Et sans la caisse de résonance, le son ne serait pas joli. La caisse de résonance sert à amplifier le son. Et bien, le soleil, qui est une grosse sphère de gaz, 700 km de rayon, énorme sphère de gaz, le soleil se comporte comme une caisse de résonance d'instruments de musique. Il y a à l'intérieur de cette sphère gazeuse des ondes sonores qui se propagent exactement comme à l'intérieur de la boîte d'un violon. Donc c'est un son. Simplement ce son, nous ne pouvons pas l'entendre pour deux raisons. La première raison, c'est qu'entre le soleil et nous, même s'il y a un petit peu de matière, c'est très très peu de matière, c'est plus vide que le vide le plus poussé qu'on peut avoir sur la Terre, et le son ne peut pas se propager dans un espace vide. La deuxième raison, c'est que le soleil est énorme, et vous savez que quand on joue d'un instrument de musique, si l'instrument de musique est petit, ça fait un son très aigu, si l'instrument de musique est plus grand, le son est plus grave. Et le soleil, quand vous imaginez la dimension du soleil, vous pouvez bien comprendre que c'est un son extrêmement grave, beaucoup plus grave que les sons audibles à l'oreille humaine. Alors pour le soleil, ce qui crée ces ondes sonores, ce qui fait du bruit, on pourrait dire, c'est ce qui se passe dans ces régions extérieures. Alors ce qui se passe dans ces régions extérieures, c'est qu'on a de la convection, comme de l'eau qui boue, si vous voulez. On fait bouillir de l'eau, on entend un son. L'eau qui boue, ça fait du bruit. Eh bien, cette zone convective du soleil, cette région qui bouillonne, crée des ondes sonores. C'est de la musique qu'on n'entend pas, mais qu'on peut voir. Nous sommes capables de détecter ces vibrations des régions extérieures du soleil dues à ces ondes sonores. Alors, ces vibrations nous apprennent énormément parce qu'elles nous permettent de sonder l'intérieur profond du soleil. La composition de la matière qui est à l'intérieur, sa température, sa densité, sa pression, ça nous apprend des choses sur la structure intérieure du Soleil.
La musique du soleil, composée par Claude Samuel Levin, avec évidemment l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, que nous apprennent Sacha Brun, ces vibrations solaires, cette musique du soleil que je rappelle, on ne peut pas entendre, hein, Sylvie Vauclair l'a bien dit, on ne peut pas l'entendre, mais ce sont des ondes hein, que l'on peut transformer en son.
Oui, et donc par rapport à ce qu'on disait juste avant, j'aimerais distinguer les ondes électromagnétiques dont on parlait, ultraviolettes, rayons X ou visibles, qui sont des ondes qui peuvent se propager dans le vide, des ondes de matière, qui sont comme les ondes sonores qui ont besoin d'un support matériel pour se propager. Donc à l'intérieur du soleil, le soleil il a toutes les types d'ondes.
Il a tous les types d'ondes, il fait les deux.
Et donc ces ondes acoustiques qui se propagent à l'intérieur du soleil, elles sont pour le soleil, et ça aussi ça change en fonction de l'étoile qu'on considère, mais pour le soleil, elles sont à peu près aux alentours de 3 mHz. Or l'oreille humaine entend entre 20 Hz et 20 kHz.
C'est bien loin, bien donc, loin notre
alors,
oreille humaine.
Ceux qui jouent de la musique le savent peut-être, le doublement, l'octave, c'est un doublement de la fréquence. Donc on connaît tous le la du milieu du piano qui est à 440 Hz, mais l'octave d'au-dessus c'est 880, celui d'en dessous c'est 220. Bon, mais en gros, il faut donc 17 changements d'octave pour ramener la fréquence moyenne des vibrations solaires à quelque chose d'audible aux alentours du 440 Hz du la. Alors, le bruit, enfin le son, mais qui est finalement en fait du bruit assez blanc, et la raison, elle est liée à la géométrie du soleil. Quand on a une corde de guitare, comme le expliquait Sylvie, les modes de vibration de cette corde ont le bon goût d'avoir un espacement assez régulier, ce qui fait qu'on peut avoir des harmoniques qui retombent sur des modes fondamentaux ou vice-versa, ce qui fait que le spectre de musique et de son qu'on génère n'est pas plein. Il a des fréquences bien identifiées. Quand on est sphérique, et on le voit bien avec les percussions, le son
est rond, comme le soleil.
Voilà, quand on commence à avoir une surface circulaire ou un objet qui est sphérique, les harmoniques n'ont pas le bon goût de retomber sur des tons réguliers. Et donc, petit à petit, on finit par remplir tout le spectre d'ondes sonores. Il est presque continu, pas complètement, mais toujours discret et non continu, mais il est beaucoup plus plein. Et du coup, plus on rajoute de fréquences, moins c'est beau. Tout le monde qui joue au piano voit bien que quand on tape une note, c'est sympa. Quand on tape deux notes, c'est pas mal aussi. Quand on fait un accord majeur, c'est avec trois notes. Mais si on commence à appuyer 10 notes d'un coup, c'est pas terrible comme musique. Quoi. Hein?
Ce que vous dites, c'est qu'on l'entend pas, mais qu'il y aurait beaucoup de bruit autour du soleil et dans le soleil.
Alors voilà, effectivement. Donc il génère, il y a des millions d'ondes qui ont été, des millions de modes acoustiques qui ont été observés par le soleil grâce à l'instrument SOHO en particulier, mais pas que, aussi par des instruments au sol, dont l'Observatoire de Nice était leader au départ. Et donc, c'est toutes ces ondes. Alors, effectivement, un peu, on peut s'amuser en tant que scientifique, en sélectionner un certain sous-ensemble et essayer de construire une gamme musicale et à partir de là, faire de la musique.
Alors, Mais au fond, on pourrait, si on est musicien, on peut se servir de n'importe quelles ondes émises par le soleil, donc faire au fond beaucoup de genres de musique différentes à partir du soleil.
Oui, et si on a accès aux données qui permettent d'identifier ces ondes sonores, et bon, elles sont accessibles facilement, on peut après, à partir de ça, composer sa propre gamme, sa propre musique et faire... Alors les sons, comme je dis, ben, c'est des sons qui font un peu assez bruit, quoi, hein, quand même, quelque part. Mais si on les isole et qu'on en prend quelques-unes, on pourrait peut-être arriver à faire quelque chose de plus sonore.
Bon, et ben on va oublier le bruit du soleil, mais pas tout à fait. On va écouter une voix très humaine, celle-là qui chante évidemment notre étoile, Here Comes the Sun, Nina Simone sur RFI.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Little darling, it's been a long, cold and lonely winter. Little darling, it's been you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Little darling, the smiles are returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here.
Here comes the sun, Nina Simone sur RFI. Autour de la question, pourquoi tourner autour du soleil et comment s'est-il formé le soleil? Nouvelle question pour vous, Alain de Sacha Brun, posée par David Fossé, rédacteur en chef du magazine, directeur en chef adjoint du magazine Ciel et Espace.
On sait que le soleil est né dans un amas d'étoiles, donc il a des frères et des sœurs. Est-ce que, Sacha, selon vous, on a une chance un jour de retrouver un des frères ou une des sœurs du soleil?
Votre réponse, Alain Sacha
Brun. Je pense que ça, c'est possible, parce que l'investigation scientifique est tout à fait possible de faire ce travail. La difficulté, c'est que, en fait, le Soleil n'est pas aujourd'hui, au niveau de son positionnement dans la galaxie, là où il s'est formé. Parce que les étoiles, dans les galaxies, migrent et dérivent.
Il a migré, il a dérivé.
Il a dérivé, il a migré, il n'est pas... Le mouvement du Soleil dans la galaxie et des étoiles en général est assez intéressant. C'est quand même une étoile qui est près du plan principal, du plan galactique principal, hein, parce qu'après, il y a des étoiles du halo, hein, autour de la galaxie, mais là, il est quand même dans le bras... le plan principal de la galaxie, mais il est dans un petit bras qu'on appelle le bras d'Orion et qui est en fait décalé. Alors on pense, des calculs qu'on a fait sur certaines personnes qui sont intéressées à essayer de voir ce que pouvait être cette dérive pour le Soleil, 120 degrés, donc ça veut dire que c'est sur la Terre, c'est comme si on était né en France et que maintenant on était plutôt au niveau du Colorado ou au niveau du Japon. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'est quand même pas mal déplacé en longitude. Quoi.
En quoi ? En 4,5 milliards d'années.
Voilà, à peu près 120 degrés. Et donc, comme il y a de la dispersion, de la migration, et en rayon, et en longitude, il faut avoir un modèle très précis de la dynamique de notre galaxie, la Voie lactée, sur ces 4,5 milliards d'années, pour être capable, au niveau des dispersions de vitesse, parce que les étoiles ont un mouvement relatif à l'intérieur de cette galaxie, donc initiale, et en fonction de ça, faire les calculs. Et comme on n'a pas cette information des conditions initiales, il faut essayer de reconstruire par mouvement arrière, en fait, comme si on remontait dans le temps de la galaxie. Et donc, tout ça, c'est donc, d'un point de vue théorique, possible. D'un point de vue pratique, on n'est pas encore au niveau, quand on fait des simulations des galaxies, on n'est pas encore au niveau de la description individuelle des étoiles. On en est à l'étape juste avant, c'est-à-dire la description des nuages moléculaires dans lesquels elles se forment. Ce qui est déjà un tour de force, parce que les galaxies comme la Voie lactée font à peu près 100 000 années-lumière de diamètre, hein, donc il faut 100 000 ans la lumière pour les traverser. Et on arrive maintenant à peut-être avoir une précision de quelques années-lumière. Hein. Donc on a quand même déjà énormément amélioré la description numérique et théorique des galaxies.
Tout ça, ça se passe en modélisant, évidemment, voilà. Parce que ce sont des telles échelles de temps que c'est totalement impossible de
oui. Ah ben, évidemment, bien évidemment, l'intérêt de la simulation numérique sur ordinateur massivement parallèle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le supercalculateur, dont je suis un des experts et dont j'ai des collègues qui travaillent sur les galaxies, ce sont des experts. Et au CEA, on est plutôt leader mondial dans la simulation astrophysique de pointe. On fait effectivement des calculs sur, on prend des centaines de milliers de cœurs ou des dizaines de milliers de cœurs. Donc, pour vous donner une idée, quand on a un ordinateur, il y a 8000 heures à peu près par an. Donc, si on dépense 8000 heures de calcul, c'est-à-dire qu'on a mis un processeur pendant une année, il a calculé, voilà. En fait, nous, on dépense des millions d'heures de calcul. Ça veut dire qu'en permanence pour nos simulations numériques, on a des milliers de processeurs qui tournent 24 heures sur 24 pour résoudre les problèmes. Et donc, du coup, un problème qui serait difficile à faire sur un seul processeur parce qu'il prendrait un millénaire à faire. Bon, alors, on vit bien longtemps, mais on vit quand même pas un millénaire. On peut, grâce à la puissance des calculs, ramener ça à des temps raisonnables, d'ailleurs de quelques années pour faire un calcul. Et comme on est capable d'accélérer le calcul, de reconstruire une évolution d'une galaxie ou de l'évolution d'une étoile. Mais aujourd'hui, faire des simulations à trois dimensions, réalistes, à la plus haute résolution d'étoiles, sur des temps séculaires, c'est-à-dire des milliards d'années, c'est pas encore à notre portée. On est obligé de faire des modèles plus simples pour faire les évolutions longues.
Alors, est-ce que c'est à votre portée de répondre à la question d'un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, qui est à Yaoundé au Cameroun et qui vous demande, Alain Sachabrin, la mort du Soleil, c'est pour quand ?
Alors, ça, oui, on peut y répondre. On a une idée, parce que c'est, comme je disais, le Soleil est une étoile, et donc la théorie de l'évolution de la structure interne des étoiles est un domaine assez compris, bien que ma partie de mon travail, c'est de montrer comment on s'en écarte par cette dynamique, par ce magnétisme, par ce vent et tout ce qu'on a discuté juste avant. Et donc, oui, on a une idée. Comment ça va se passer ? En fait, comme on l'a dit, le Soleil, aujourd'hui, dans son cœur nucléaire, transforme l'hydrogène en hélium. Quand il aura, au niveau du cœur nucléaire, transformé tout l'hydrogène en hélium, ça ne marche plus. Il va falloir faire quelque chose.
Il ne pourra plus continuer à...
Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Là, d'un coup, la gravité, comme je le dis depuis le début, c'est la source de tout. La gravité, elle va continuer. Elle fait tout le temps, elle pousse tout le temps, quoi. Donc, il faut qu'il y ait une pression du gaz pour pouvoir s'opposer à cet effondrement de l'étoile. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on ne va plus avoir d'hydrogène au centre, le cœur nucléaire va arrêter de fournir l'énergie suffisante pour maintenir. Donc, il va y avoir un léger effondrement du cœur nucléaire et une augmentation de la température jusqu'à ce qu'on arrive à un point où, à peu près 100 millions de degrés, où l'hélium peut être fusionné. Et donc, on va passer dans une autre étape de la vie de l'étoile, c'est-à-dire que l'étoile va sortir de ce qu'on appelle la séquence principale et il va devenir une étoile sur, on appelle ça pour le cas du Soleil, la branche horizontale. Et sur cette branche horizontale, il va être comme une étoile actuelle, comme notre Soleil qui brûle l'hydrogène, sauf qu'il va brûler l'hélium. Et notre Soleil, il n'est pas assez massif. Il devrait être 9 fois plus massif que ce qu'il est s'il voulait être capable d'aller au-delà de l'hélium, parce que l'hélium, qu'est-ce qu'il forme? C'est du carbone. Et pour fusionner le carbone, il faut atteindre une température d'un milliard de degrés à peu près au centre. Et ça, le Soleil n'en est pas capable.
Donc il va se consumer
Non, il va du coup être bloqué, il va créer ce qu'on appelle une naine blanche, c'est-à-dire un objet d'à peu près de la taille de la Terre, mais fait de carbone, d'azote et d'oxygène principalement. Une sorte de diamant.
Le Soleil va se transformer en diamant. C'est prévu pour quand, à peu près?
5,5 milliards d'années, à peu près.
On a le temps. Dans 5,5 milliards d'années. On a largement le temps. Là.
Et entre-temps, ce que j'aime bien mettre pour mettre le Soleil en contexte, c'est que la galaxie d'Andromède qui est en train de nous tomber dessus, il y aura eu fusion de nos galaxies avant la mort du Soleil. Donc le ciel, à peu près dans 2 milliards d'années, oui. Il y a fusion de nos galaxies. Donc on va commencer à voir les effets des queues de marée, des interactions des galaxies entre elles. Et notre Soleil, comme on vit en périphérie de la Voie lactée...
Oui, on est en banlieue.
En banlieue, on vit dans le tiers extérieur. Donc on est vraiment grande couronne à Paris, pour ceux qui habitent à Paris. Pas petite couronne, on est grande couronne. Et il va être catapulté. Donc la trajectoire du Soleil, de sa naissance avec sa dérive dont on a parlé, puis après continuer à cette évolution dans la galaxie, et le fait qu'il y a une galaxie qui nous tombe dessus, Andromède, à peu près la même taille que notre galaxie, va faire que ça va tout perturber et le Soleil va être catapulté quelque part jusqu'avant que notre galaxie finale de la fusion de ces deux se reforme. Donc l'aventure du Soleil sur où il va être et comment il va évoluer, alors ça l'évolution on l'a bien dit, il va se transformer en géante rouge et tout ça, et finir en naine blanche, mais son parcours et sa localisation dans l'espace va être amené à avoir une aventure incroyable.
On voit que vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de ça, si le Soleil ne brillera plus, dans combien, vous avez dit, dans encore 4 milliards d'années?
Oui, 5,5 milliards d'années. Bon, et puis il se transforme en géante rouge, donc il va être plus lumineux.
En attendant, je vous propose d'écouter Shine, chanson extraite du dernier album de Cléo T., composé à la Villa Médicis à Rome, s'il vous plaît, donc sous un ciel... ensoleillé sur RFI. Walk in the streets, you know who you wanna be, but you feel down today, you feel so down. Walk by the cafe, people smile and you forget, you wanna let it down. Ça brille sur RFI, extrait du dernier album de Cléo T autour de la question du Soleil, en compagnie de l'astrophysicien Alain Sacha Brun, qui dirige le laboratoire dynamique des étoiles, des planètes, des exoplanètes et de leur environnement au CEA, et qui vient de nous raconter une mort du Soleil après l'effondrement de notre galaxie. Enfin, j'en suis encore toute perturbée, mais heureusement on a le temps, c'est pendant quelques milliards d'années. En attendant, sur quoi portent vos recherches aujourd'hui?
Alors, mes recherches, elles portent sur deux aspects. Elle porte sur la compréhension du Soleil en tant qu'étoile et comment on généralise ça aux autres étoiles, et à l'impact des étoiles sur les planètes. Et vous savez qu'on a découvert beaucoup d'exoplanètes, plus de 3000 maintenant, et donc nous sommes impliqués en tant que laboratoire dans plusieurs des grandes missions de l'Agence spatiale européenne, et l'ESA, dont tout le monde a entendu parler pour Rosetta, mais donc elle ne fait pas que cette mission-là, elle en fait d'autres. Il y a donc Solar Orbiter, donc il va y avoir le successeur de SOHO dont on parlait, qui va sortir, lui, il va avoir le bon coup de sortir du plan de l'écliptique, donc on va pouvoir voir le système solaire et le Soleil vu d'en haut. vu du pôle nord, vu du pôle sud, alors que pour le, enfin pas tout à fait, mais mieux que d'être resté dans le même plan où on a toujours vu le soleil, à part dans un cas particulier avec Ulysse, mais c'était que les particules, c'était que les mesures qu'on dit in situ, c'est-à-dire toutes les particules qui passent à travers le satellite. On n'avait pas d'imageur. Là, c'est la première fois qu'on aura un imageur.
Pourquoi on fait ces images?
On l'envoie en février 2020, on l'envoie le temps qu'il fasse sa période de rapprochement du soleil. On peut prévoir les premières images du pôle solaire aux alentours de 2022 à peu près. Mmh. Il y a Parker Solar Probe, la mission de la NASA qui va s'approcher très proche du Soleil. Et donc, ce qu'on veut caractériser aussi, c'est donc l'impact des étoiles sur les planètes et dans notre cas particulier qui nous intéresse, du Soleil sur la Terre. Et donc, oui, c'est la notion de météo de l'espace.
Météo de l'espace. C'est pas notre météo à nous, c'est encore autre chose. Hein,
mais... C'est quel est l'environnement spatial dans lequel baigne la Terre?
Donc, et au fond, on commence à en savoir des choses.
Le vent solaire dont on parlait plus tôt, les tempêtes, tout ça modifie en permanence l'environnement spatial dans lequel baigne la Terre. Le champ magnétique qu'elle voit du Soleil change aussi, non seulement parce que la structure magnétique du Soleil externe est complexe, cette fameuse couronne dont on parlait, qu'on voit lors des éclipses solaires, mais en plus parce que la Terre orbite autour et qu'il y a un cycle magnétique de 11 ans. Donc on voit que la Terre, en fait, elle est dans un milieu dont le champ magnétique, dont la pression du vent solaire
change
en permanence. Et donc, la magnétosphère, ce cocon magnétique de la Terre, doit en permanence s'adapter. Et ça a un impact sur les conditions de vie et de développement de la vie. Et après, nous, notre but, c'est de généraliser ça dans des scénarios astrophysiques différents. Est-ce que maintenant, je mets une étoile deux fois plus massive ou moins massive, si je mets une planète plus grosse ou moins grosse, plus proche ou plus loin, et bien là, je suis en train d'avoir un étudiant stagiaire de M2 qui va faire sa thèse avec nous, qui est en train de finir son stage sur ça, sur les interactions étoiles-planètes, en changeant plein de paramètres astrophysiques.
Et donc, pour peut-être en trouver une, exoplanète autour d'un autre soleil.
C'est les observateurs. Je suis théoricien, donc vous savez, je laisse ça à mes collègues observateurs.
Merci infiniment, en tout cas, d'être venu nous faire partager avec autant d'enthousiasme ce soleil, notre étoile au-dessus de nous, toutes vos recherches, vos découvertes et vos connaissances donc, sur le soleil. Je signale aussi à nos amis auditeurs qu'il y avait un documentaire diffusé sur France 5 qui est encore visible, qui s'appelle « Du soleil et des hommes », auquel vous avez participé. Alain Sacha Brun, on se quitte avec un morceau de votre choix qui se passe de commentaire. Miles Davis, In a Silent Way, It's About Time. Bah oui, malheureusement, il est temps de se quitter, mais vous revenez quand vous voulez.
Ah ben merci
Sacha
beaucoup.
Brun, sous le soleil. Ouais.
Sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio avec Apolline Vallon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Nous vous donnons rendez-vous lundi, amis auditeurs, pour partager ensemble de nouvelles interrogations. Merci de votre fidélité, merci de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Le prochain journal, c'est dans une grande minute.